faits, chroniques historiques, hétéroclites et tout azimiques. Le 26 avril 1986, le monde assiste à l'un des pires accidents nucléaires de l'histoire civile. L'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, en Ukraine, qui fait alors partie de l'Union soviétique. Ce jour-là, un test de sécurité apparemment anodin se transforme en catastrophe majeure, libérant des radiations sur une vaste partie de l'Europe et provoquant des conséquences humaines, environnementales et politiques durables. Tchernobyl n'expose pas seulement des milliers de personnes à des doses de radiations dangereuses, il bouleverse les écosystèmes, transforme la perception publique du nucléaire et déclenche une coopération internationale inédite en matière de sécurité et de prévention des accidents. Plus de 39 ans après, le site reste un symbole puissant des risques liés à l'énergie nucléaire et des leçons que l'humanité tire en termes de sécurité, de transparence et de gestion des crises. Un accident qui aura des conséquences immédiates et à long terme pour la population, la faune et la flore. Voici son histoire.
Beep, beep, beep.
Le 26 avril 1986, à la centrale nucléaire de Tchernobyl, située à 110 km au nord de Kiev, les préparatifs d'un test de sécurité sur le réacteur numéro 4 commencent dès minuit. La centrale, construite dans les années 1970, emploie des centaines d'ingénieurs, techniciens et ouvriers, dont beaucoup travaillent en équipe rotative. Ce test, décidé par la direction et approuvé par les autorités soviétiques, doit vérifier si la turbine peut fournir de l'électricité aux pompes de refroidissement en cas de panne, mais plusieurs procédures critiques sont ignorées dès le départ. Entre minuit et 1h du matin, les opérateurs réduisent progressivement la puissance du réacteur à environ 30 MW, un niveau extrêmement instable pour un réacteur RBMK. C'est l'abréviation russe de réacteur Bolshoï Mochnosti Kanalny, ce qui signifie réacteur de grande puissance à canaux. C'est un type de réacteur nucléaire à eau bouillante graphite modérée. À cette puissance, le coefficient de vide positif peut provoquer une augmentation rapide de la réaction nucléaire. Pour maintenir le test malgré les alertes internes, les opérateurs retirent plus de barres de contrôle que la réglementation ne le permet, diminuant considérablement la capacité du réacteur à réguler sa puissance. Plusieurs systèmes automatiques de sécurité sont volontairement désactivés et certains ingénieurs expriment leur inquiétude tandis que les superviseurs insistent pour respecter le planning du test, illustrant la pression hiérarchique et la culture du secret de l'époque. À 1h23, une explosion secoue la centrale. La première détonation souffle le toit du réacteur, projetant graphite, combustible nucléaire et matériaux radioactifs dans l'air. Dans la salle de contrôle, les opérateurs restent abasourdis. À l'extérieur, les pompiers arrivent, ignorant l'intensité des radiations. Certains recevront des doses létales en quelques minutes.
J'ai envoyé mes dosimétristes dans le bâtiment du réacteur. Avec le grand dosimètre, celui du coffre, qui peut mesurer jusqu'à 1000 roentgen.
Il indiquait combien ?
Il n'a rien indiqué. L'appareil a grillé à la seconde où ils l'ont mis en marche.
C'est typique. Voilà ce que fait Moscou. Ils nous donnent du matériel de merde et se demandent ensuite pourquoi tout va de travers.
On a trouvé un autre dosimètre. Celui des pompiers. Il ne va que jusqu'à 200 roentgen, mais c'est toujours mieux que les petits.
Et alors ?
Il est monté tout de suite à 200 roentgen.
À quel jeu jouez-vous, camarade ?
Hein ? Je lui ai demandé de prendre plusieurs mesures. C'est mon meilleur élément et...
C'est encore du mauvais matériel. On perd notre temps.
J'ai vérifié le dosimètre sur l'appareil de contrôle.
C'est quoi votre problème ? Comment peut-on obtenir cette mesure avec de l'eau qui fuit des ruines d'un réservoir ?
On ne peut pas.
Alors de quoi parlez-vous exactement ?
J'ai fait un tour à l'extérieur du bâtiment 4. Je crois qu'il y a du graphite sur le sol dans les débris.
Vous n'avez pas vu de graphite ?
Si.
Non. Vous n'en avez pas vu ! Parce qu'il n'y en a pas ! Bien. Est-ce que vous suggérez que le cœur du réacteur, quoi, a explosé ? Sitnikov, vous êtes un ingénieur nucléaire, tout comme moi. Maintenant, veuillez me dire comment le cœur d'un réacteur nucléaire de ce genre peut exploser. Je ne parle pas de fusion, mais d'une explosion. J'aimerais le savoir.
J'en sais rien.
Êtes-vous stupide ?
Non.
Alors expliquez-nous ça.
Je ne vois pas comment il aurait pu exploser. Mais c'est un fait.
Ça suffit. Je vais aller près de la cheminée d'évacuation. De là, on a une vue dégagée sur le bâtiment du réacteur 4. Je le verrai de mes propres yeux. Je m'excuse.
Ce qui est entré en premier dans le cœur, ce sont les extrémités en graphite. Et quand elles l'ont fait, la réaction dans le cœur s'est accrue de manière exponentielle. En conséquence de quoi, toutes les molécules d'eau présentes à l'état liquide se sont transformées en un nuage de vapeur qui a fait éclater toute une série de tubes de force en se dilatant. Les barres de contrôle situées à côté ne peuvent plus s'enfoncer. Les extrémités en graphite sont bloquées dans cette position, accélérant à l'infini la réaction. Le réacteur numéro 4 devient alors une gigantesque bombe. 1h23 et 42 secondes. Perevozchenko regarde en bas l'énorme couvercle d'acier du réacteur et voit alors l'impossible. Les bouchons de sécurité des tubes de force et des barres de contrôle qui pèsent 350 kg chacun font des bonds. Il court pour aller prévenir la salle de contrôle, mais il n'y a rien qu'il puisse faire pour empêcher ce qui va arriver. 1h23 et 44 secondes, la vapeur fait éclater d'autres canaux de combustible. Nous ignorons jusqu'où est montée la puissance, nous ne connaissons que son dernier relevé. Le réacteur 4, conçu pour fonctionner à 3200 MW, a finalement dépassé les 33 000. La pression dans le cœur ne peut plus être contenue. Et là, nous arrivons enfin à 1h23 et 45 secondes, au moment de l'explosion. Le couvercle est immédiatement éjecté du réacteur. L'oxygène s'y engouffre. Il se combine avec l'hydrogène et surchauffe le graphite. L'enchaînement d'erreurs menant à la catastrophe est arrivé à sa conclusion. Cette nuit-là, personne dans la salle de contrôle ne savait que le bouton d'arrêt d'urgence pouvait être en réalité un détonateur. Il l'ignorait. Parce qu'on a caché la vérité à ces hommes.
Camarade Legasov, vous êtes en contradiction avec votre propre témoignage à Vienne.
Parce qu'à Vienne, je n'ai fait que mentir. J'ai menti au monde entier. Je ne suis pas le seul à avoir gardé ce secret. Nous sommes Légion. Nous suivions les ordres. Les ordres du KGB, du comité central, et en ce moment, il y a 16 réacteurs en Union soviétique qui ont exactement le même défaut. 3 d'entre eux fonctionnent encore, à moins de 20 km d'ici, à Tchernobyl.
Professeur Legasov, si jamais vous voulez suggérer que l'État est d'une certaine façon responsable de ce qui s'est passé, je vous préviens que vous vous aventurez sur un terrain glissant.
Je me suis déjà aventuré sur ce genre de terrain. Nous sommes en ce moment sur un terrain glissant, à cause de nos secrets et de nos mensonges. Ce sont pratiquement eux qui nous définissent. Quand la vérité nous dérange, nous mentons tant de fois que nous finissons par en oublier qu'elle est là, mais elle est toujours là. Tous les mensonges que nous disons accroissent notre dette envers elle. Tôt ou tard, cette dette doit être payée. Voilà ce qui a fait exploser le cœur d'un réacteur RBMK. Nos mensonges.
Alors que le désastre se déroule, les autorités soviétiques sont informées, mais dès les premières heures, elles minimisent l'accident. Les rapports locaux évoquent un simple incendie et l'ampleur des radiations n'est pas communiquée. Le secrétaire général du Parti communiste, Mikhail Gorbatchev, est averti plus tard dans la journée. Les autorités ukrainiennes, sous contrôle central soviétique, reçoivent également des directives. La ville de Pripyat, située à seulement 3 km de la centrale, n'est évacuée que vers 14 heures. Près de 11 heures après l'explosion. Les habitants quittent leur maison en laissant derrière eux biens et animaux domestiques, pensant ne partir que quelques jours. Les écoles, les hôpitaux et les transports publics deviennent des points critiques pour le suivi des populations et la gestion des premiers cas de contamination. Dès les premières semaines, 28 pompiers et opérateurs exposés à des doses extrêmement élevées décèdent et plusieurs dizaines souffrent du syndrome d'irradiation aiguë. À plus long terme, des milliers de personnes, surtout des enfants, développent des cancers de la thyroïde ou d'autres maladies liées aux radiations, tandis que les déplacements massifs et la contamination provoquent stress, anxiété et traumatismes durables. Les chercheurs constatent également un impact psychologique profond sur les populations évacuées et sur les liquidateurs envoyés pour sécuriser le site. La communication officielle n'a lieu que 2 jours plus tard, le 28 avril, lorsque l'URSS annonce enfin l'accident, mais en minimisant ses risques immédiats pour le public. Des mesures d'urgence sont prises pour contenir le réacteur, confinement du cœur endommagé avec du sable, du bore et du plomb largué depuis des hélicoptères dans des conditions extrêmement dangereuses pour les pilotes. Un nuage radioactif s'élève dans l'atmosphère, transporté par les vents vers le nord et l'ouest. Il traverse la Biélorussie, la Russie occidentale, la Pologne, l'Allemagne, la Scandinavie et d'autres pays européens. La Suède détecte les premières anomalies dès le 27 avril, forçant l'URSS à reconnaître officiellement l'accident. La contamination atteint plusieurs pays, mais les niveaux varient. En France, le nuage radioactif atteint le territoire dès le 28 avril 1986. Des traces d'iode 131 et de césium 137 apparaissent dans l'air, la pluie et certains aliments, surtout dans le nord-est et le centre-est. Les autorités françaises mettent en place un suivi rigoureux des aliments et les habitants respectent les consignes strictes sur le lait et les légumes. Le gouvernement affirme que la contamination ne présente pas de danger immédiat, mais l'événement marque durablement l'opinion publique. À plus long terme, Tchernobyl influence la réglementation française. Renforcement de la surveillance des centrales, amélioration des systèmes de sécurité, tests d'alerte et communication rapide en cas d'accident.
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия.
There's no way they could have known that morning that they awoke upon a fateful day. The killer wind came down without a warning, and no one had the chance to get away. More than it appeared to be.
Then on May 6th,
and one by one, they fell beside their comrades. Several pilots, victims of a foe they could not see. Mama, where are you? Children who used to play here. Only heaven knows. Saw defied all explanation. Someone said the trees were glowing red. They say the light came from the radiation, but maybe it's the spirits of the dead. The gardens,
on the souls who made their livings here. They say this place will always be a ghost town. It will be for at least 600 years. Mama, where are you? Papa, where did you go? And where are all the children who used to play here? Only heaven
fonctionne un réacteur.
Un réacteur nucléaire produit de l'électricité avec de la vapeur. La vapeur fait tourner une turbine qui génère de l'électricité. Là où une centrale électrique normale produit de la vapeur en brûlant du charbon, une centrale nucléaire... Dans une centrale nucléaire, on se sert de quelque chose que nous appelons la fission. Nous prenons un élément instable, comme l'uranium-235, qui possède beaucoup trop de neutrons. Un neutron, c'est un...
Une balle.
Oui, c'est bien ça. Du coup, les balles veulent s'échapper de l'uranium. Maintenant, si vous mettez assez d'atomes d'uranium proches les uns des autres, les balles de l'un des atomes vont finir par heurter un autre atome. La force de cet impact fragmente cet atome en produisant une quantité phénoménale d'énergie, la fission.
Et le graphite ?
Ah, oui. En fait, les neutrons se déplacent à une telle vitesse, nous appelons ça le flux, qu'il est relativement peu probable qu'un atome d'uranium entre en collision avec un autre. Dans un réacteur à tube de force, nous entourons les barres de combustible avec du graphite, pour modérer, ralentir, le flux neutronique.
Dans les zones proches du réacteur, la forêt rouge de pins meurt dans les semaines suivant l'explosion, et les scientifiques observent les sols et les rivières contaminées par les isotopes radioactifs. Dans les semaines et mois qui suivent, les équipes soviétiques construisent un sarcophage en béton et acier autour du réacteur numéro 4 détruit. Ce bâtiment provisoire limite la dispersion de matière radioactive, mais expose les liquidateurs à des radiations intenses. Au fil des décennies, le sarcophage montre des signes de dégradation, fissures, corrosion et infiltration d'eau, entraînant un risque de libération de poussière radioactive. Pour résoudre ce problème, les autorités ukrainiennes, avec le soutien de la communauté internationale et de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, lance un projet pour construire le New Safe Confinement. Les travaux débutent en 2010 et se terminent en novembre 2016. La structure en acier massif recouvre entièrement le sarcophage original et limite les fuites radioactives. A savoir qu'après l'accident de 1986, le cœur du réacteur numéro 4 de Tchernobyl a fondu et s'est mélangé à de nombreux matériaux présents dans le bâtiment, notamment le béton, l'acier, le sable et le plomb. Le résultat n'est pas un combustible nucléaire classique, organisé en barres ou en assemblage, mais des masses solides hétérogènes, appelées matériaux contenant du combustible. Ces matériaux se présentent sous des formes chaotiques et irrégulières. Coulées solidifiées, blocs vitrifiés, stalactites, amas friables, parfois surnommés laves radioactives ou pieds d'éléphant. Ils n'ont aucune géométrie standard, sont partiellement vitrifiés, partiellement pulvérulents, et contiennent un mélange extrêmement complexe d'uranium, de plutonium, de produits de fission et de métaux. Chaque fragment est unique, imprévisible, et ne peut être traité avec des méthodes industrielles conventionnelles. Malgré le temps écoulé depuis la catastrophe, la radioactivité de ces matériaux reste extrêmement élevée. Dans certaines zones, les doses de rayonnement sont encore aujourd'hui mortelles en quelques minutes. Les rayonnements gamma intenses détruisent rapidement l'électronique, rendant les interventions humaines directes impossibles et compliquant fortement l'usage de robots. Toute opération doit donc être menée à distance, derrière des blindages lourds, mais même les robots spécialement conçus tombent fréquemment en panne ou sont dégradés par les radiations, la poussière radioactive et l'humidité du site. Un autre problème majeur réside dans le risque de reprise de criticité nucléaire. Le combustible fondu contient toujours de l'uranium fissile. Si ces matériaux étaient coupés, déplacés ou humidifiés de manière inadéquate, certaines configurations pourraient concentrer suffisamment la matière fissile pour déclencher une réaction nucléaire non explosive, mais accompagnée d'une émission brutale de neutrons et d'une augmentation soudaine des radiations. Pour éviter ce scénario, toute tentative de retrait doit être extrêmement lente, étroitement surveillée par des détecteurs de neutrons et parfois accompagnée de matériaux absorbant les neutrons afin d'empêcher toute réaction incontrôlée. À cela s'ajoute l'instabilité des structures environnantes. Les matériaux contenant du combustible sont souvent coincés dans des bâtiments partiellement effondrés, reposent sur des dalles fragilisées et sont entourés de béton fissuré. Les manipuler ou les retirer risquent de provoquer des effondrements secondaires et de libérer d'importantes quantités de poussière radioactive, ce qui accroîtrait la contamination de l'air à l'intérieur du confinement. Ce problème est d'autant plus complexe qu'il n'existe aucun précédent industriel comparable. Aucun autre site au monde ne combine une telle quantité de matériaux contenant du combustible, un bâtiment détruit par une explosion et des niveaux de radiation aussi élevés. Il n'existe donc pas de méthode standard. Chaque outil, chaque procédure doit être conçu sur mesure, testé, adapté et déployé sur des décennies, ce qui explique pourquoi le démantèlement complet du réacteur n'a pas encore été commencé et pourrait s'étendre jusqu'à la fin du XXIe siècle. Le New Safe Confinement constitue aujourd'hui la principale barrière entre ces matériaux extrêmement dangereux et l'environnement. Il est toutefois essentiel de comprendre ce qui se produirait s'ils se dégradaient fortement. Une telle dégradation ne provoquerait ni explosion nucléaire, ni un accident similaire à celui de 86, car le cœur a déjà fondu et aucune réaction explosive de ce type n'est possible. En revanche, les conséquences réelles seraient insidieuses et graves. Les matériaux contenant du combustible se dégradent lentement avec le temps en produisant des poussières radioactives. Si l'étanchéité ou la stabilité du confinement étaient compromises, ces particules pourraient être dispersées par le vent, d'abord localement dans la zone d'exclusion, puis potentiellement à l'échelle régionale, voire européenne, selon les conditions météorologiques. Une telle dispersion entraînerait une contamination progressive des sols, des forêts et des cours d'eau. Les incendies de forêts déjà fréquents dans la zone de Tchernobyl pourraient alors rejeter à nouveau des radionucléides dans l'atmosphère, amplifiant la contamination. Il ne s'agirait pas d'une catastrophe immédiate et spectaculaire, mais d'une exposition chronique accrue, augmentation durable des doses pour les travailleurs du site, puis, à plus long terme, pour certaines populations, avec des risques sanitaires accrus notamment en matière de cancer et de troubles génétiques. Par ailleurs, plus le confinement se dégraderait, plus la radioactivité deviendrait diffuse et difficile à contrôler, rendant toute intervention future encore plus complexe, voire pratiquement impossible sans construire une nouvelle structure de confinement. Dans un scénario extrême, peu probable à court terme, mais envisageable sur plusieurs décennies sans maintenance suffisante, une dégradation avancée pourrait conduire à un effondrement partiel des structures internes, à une libération massive de poussière radioactive et à la nécessité de construire un nouveau confinement encore plus complexe et coûteux que l'actuel. En définitive, les matériaux contenant du combustible de Tchernobyl sont extrêmement difficiles à retirer car ils sont hautement radioactifs, physiquement chaotiques, chimiquement instables et potentiellement critiques dans un environnement structurellement détruit. Le confinement actuel n'est pas une solution définitive, mais un délai de sécurité indispensable. Sa dégradation ne causerait pas une explosion, mais une contamination lente, diffuse et durable dont les conséquences seraient très difficiles à maîtriser à long terme.
Чорний ворог, що ж ти в'єшся над моєю головою? Ти добичі не доб'єшся, чорний ворон, я не твій. Ти добичі не дождешся, чорний ворон, я не твій. Чорний ворон, що ж ти в'єшся над моєю головою? Ти добичі не дождешся, Черный ворон я не ты добычи не дождешься. Черный ворон я не
Depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la centrale de Tchernobyl, bien qu'elle ne produise plus d'électricité depuis des années, est redevenue un site stratégique et extrêmement sensible en raison de la présence de grandes quantités de matières radioactives issues de la catastrophe. Le 24 février 2022, premier jour de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, les forces russes ont pris le contrôle de la zone d'exclusion de Tchernobyl ainsi que de la centrale elle-même. Cette occupation a duré environ 5 semaines. Durant cette période, des convois militaires lourds ont circulé dans la zone contaminée, notamment dans la forêt rousse, l'un des endroits les plus radioactifs du site. Ces déplacements ont soulevé des poussières radioactives, provoquant une augmentation mesurable des niveaux de radiation dans certaines zones, sans toutefois qu'il y ait de fuites radioactives provenant directement des installations nucléaires. Le personnel ukrainien a continué à travailler sur place dans des conditions très difficiles, sous surveillance armée, avec des rotations de personnel limitées et une fatigue importante. Fin mars 2022, les forces russes se sont retirées du site, laissant la centrale de nouveau sous contrôle ukrainien. Le 14 février 2025, un événement particulièrement grave s'est produit. Un drone militaire équipé d'une charge explosive a frappé le site de Tchernobyl. L'impact a touché le New Safe Confinement, recouvrant le réacteur numéro 4. Le drone a endommagé le toit extérieur de la structure, créant un trou dans le revêtement, et a également affecté une partie de la couche interne de protection. L'explosion a provoqué un incendie à l'intérieur de la structure, qui a toutefois été maîtrisé et éteint par les équipes de sécurité. À la suite de cette attaque, l'Agence internationale de l'énergie atomique ainsi que les autorités ukrainiennes ont indiqué que les niveaux de radiation mesurés autour du site restaient normaux et stables, sans fuite radioactive détectée dans l'environnement. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a qualifié cette attaque de menace terroriste internationale, estimant qu'attaquer une infrastructure nucléaire, même hors service, constituait un acte extrêmement irresponsable. La Russie a nié toute responsabilité dans cette frappe et l'Agence internationale de l'énergie atomique n'a pas officiellement attribué l'attaque à l'une ou l'autre des parties. Malgré l'absence de fuite radioactive immédiate, les conséquences matérielles ont été jugées sérieuses. Selon les évaluations ultérieures, le New Safe Confinement a perdu certaines de ses fonctions de protection, ce qui signifie que sa capacité à isoler durablement les matériaux radioactifs a été partiellement compromise. Des réparations lourdes seront nécessaires pour garantir la sécurité à long terme du site, avec des coûts estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros. En octobre 2025, un autre incident a affecté la centrale. Des bombardements russes visant des infrastructures électriques à proximité, notamment dans la région de Slavoutych, la ville qui héberge une partie du personnel de Tchernobyl, ont provoqué une coupure d'électricité alimentant le site. Cette coupure a duré plusieurs heures et a entraîné l'arrêt temporaire de certains systèmes de sécurité dépendant de l'alimentation électrique, bien que des générateurs de secours aient pris le relais. L'électricité a été rétablie relativement rapidement et là encore, aucun impact radiologique immédiat n'a été signalé. L'ensemble de ces événements souligne pourquoi Tchernobyl demeure une source d'inquiétude majeure pendant le conflit. Même sans production d'énergie, le site contient des déchets nucléaires, du combustible usé et les restes extrêmement dangereux du réacteur accidenté. Toute attaque, coupure d'électricité prolongée ou dégradation du confinement augmente les risques à long terme pour l'Ukraine, l'Europe et l'environnement. C'est pour cette raison que la centrale est placée sous surveillance constante de l'Agence internationale de l'énergie atomique et que les incidents survenus à Tchernobyl pendant la guerre ont suscité une inquiétude internationale durable. L'accident de 86 a conduit à un renforcement mondial de la sécurité nucléaire, amélioration des systèmes automatiques, audits et inspections internationales, plans d'urgence et communication rapide. Certains pays réduisent leur programme nucléaire tandis que les centrales disposent désormais de protocoles stricts d'évacuation et de surveillance. Les chercheurs constatent que la sensibilisation du public et la préparation aux catastrophes changent profondément la perception et la gestion des risques nucléaires. Plus de 39 ans après, Tchernobyl reste un site sensible, symbole des risques persistants de l'énergie nucléaire, de la résilience de la nature et de leçons de transparence, coopération internationale et sécurité nucléaire, y compris pour la France. Aujourd'hui, le nucléaire reste une énergie centrale pour plusieurs pays. En 2025, environ 417 réacteurs sont en fonctionnement dans 31 pays, produisant près de 9% de l'électricité mondiale et atteignant un taux de disponibilité élevé, autour de 83%. Près de 70 réacteurs sont en construction, principalement en Asie, et de nombreux pays envisagent de nouveaux projets ou prolongent la durée de vie de centrales existantes pour garantir une production stable et bas carbone. Parallèlement, la question des déchets radioactifs reste cruciale. Des projets d'enfouissement géologique profond sont en cours pour assurer la sûreté sur de longs termes. Onkalo en Finlande est prêt à accueillir les combustibles usés dans des galeries profondes à 430-450 mètres sous la roche. Cigéo, en France, à Bure, est en phase finale d'études techniques et d'autorisation avec une mise en service prévue vers 2050. D'autres pays comme la Suisse et le Canada préparent leurs propres sites pour accueillir des déchets de haute activité. Ces sites visent à isoler les déchets pendant des centaines de millions d'années, mais leur coût, la complexité technique et la transparence à long terme restent des défis majeurs. Les déchets faiblement radioactifs, mais à vie longue par exemple, n'ont pas encore de solution définitive dans certains pays. Tchernobyl est un rappel glaçant que le nucléaire n'offre aucune marge d'erreur. Un simple dysfonctionnement peut provoquer une catastrophe aux conséquences irréversibles. Alors que le monde continue de compter sur cette énergie, chaque centrale représente un risque latent et la menace d'un nouvel accident majeur plane toujours au-dessus de nos têtes.
dobbiamo fare per evitare che il mondo salti in aria?
Quella sera quando tu arrivasti ci dicesti non fare agli altri ciò che tu non vuoi che gli altri facciano a te, ma nessuno di noi ti ascoltò. Dovevamo per fare carriera noi belve anche uccidere per arrivare, per arrivare.
les faits des faits. Chronique historique, hétéroclite et tout azimic. Littérature, donc racine de X sur oméga 25, sans valeur ajoutée, je veux une réponse en joules. 10 plus 1, 5,
je dirais 28, 12. Non, 27, 12.
Oui, 27, je vous 12. L'accorde. Philippe, vous vous libérez d'un Vatou, que faites-vous ?
Oh, je passe. Je passe et je récupère deux Vatou sur le joker de mise.
très bien joué. Je vois qu'on ne lésine pas. Ouais. Jérôme, oui. Qu'est-ce que vous faites ?
Moi, j'ai joué plein pot en trois manches à tout cœur.
Oui. Un petit instant, une indication pour les téléspectateurs.